tu nous as donné ton esprit et ta parole. Et toi-même, quand tu citais les Écritures, tu disais que pas un seul iota, Seigneur, ne passerait. Le ciel et la terre passeront, mais pas ta parole, et rien de ta parole. Nous croyons que ta parole est vraie et qu'elle nous parle aujourd'hui encore, alors qu'elle le fasse dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions grandir dans tous les domaines avec toi, au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai une lecture dans 1 Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, et au verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Juste ce verset-là, je le relis. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On va revenir sur les chapitres précédents et sur les versets qui suivent. Mais c'est une sorte de transition qui introduit quelque chose et qui est la continuité d'autre chose. Vous voyez, on pourrait penser que Paul est orgueilleux de dire « imitez-moi ». Mais en fait, il se place dans une hiérarchie d'autorité, dans un ordre spirituel, qui est que lui-même veut et suit le Christ, et du coup, il se place en imitateur, celui qui imite et celui qui peut être imité. C'est pas de l'orgueil de demander à des personnes de vous suivre, en tout cas pas les parents, on vient de le voir à l'instant, que les enfants regardent aux parents et à leur foi. Je sais que Michel, je trahirai pas sa parole, il n'est pas là, mais il a dit que si ses parents n'avaient pas été cohérents dans leur foi, ils ne seraient jamais chrétiennes. Vous voyez, il y a un sentiment de justice au fond de l'enfant qui fait qu'il n'aime pas l'hypocrisie. Il y en a ici qui aiment l'hypocrisie. Allez, soyez honnêtes. Je ne vois personne qui se lève. Ça veut dire quoi? 100% tous les hommes n'aiment pas l'hypocrisie. C'est ça? C'est ça que ça veut dire? Vous aimez quoi? Vous aimez la justice? C'est ça? Vous aimez l'honnêteté? C'est ça? Vous aimez l'authenticité? C'est ça? Vous aimez la cohérence? C'est ça? Oui. Alors est-ce que vous êtes tout ça? C'est ça la question ce matin. Voilà. Je pense qu'on peut dire non, mais on peut y tendre. On peut y tendre. Parce que à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et si on veut devenir cohérent, si on veut ne pas être hypocrite, si on veut toutes ces choses-là, on le peut. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous dites amen? Rien n'est impossible à toi. Dis à ton voisin, ton voisine, tu peux être tout ça. Dans le Seigneur. Toutes ces choses que tu aimes, tu peux l'être. Alors il y a Elsa qui est au milieu de nous, elle a conduit l'enseignement du TQP, qui commence par... Elsa, la première leçon? Marcher par l'esprit. C'était pas un piège, hein? C'est quelque chose que tu fais à chaque... À force d'entendre, ben, tu l'as enregistré, tu le vis. Marcher par l'esprit et ne marcher pas par la chair. Hein, voilà. Eh bien oui, mais on a tous une chair. Hein. Dis à ton voisin, tu as une chair. Eh oui, tu as une chair. Ouais. Ouais. Ben, vous voyez l'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs ». Qu'est-ce qu'il avait dans sa chair? Allô? Une écharde. C'était quoi cette écharde? Pardon? Voilà. Ouais, on ne sait pas très bien. Il semble que ce soit les yeux, mais peu importe. L'écharde dans sa chair, il a demandé je ne sais pas combien de fois au Seigneur de lui enlever. Vous vous rappelez? Hein? Combien de fois? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ma grâce te suffit. Ça montre déjà que, un, le chrétien n'est pas exempt de maladie. Voilà. Pas un surhomme, une surfemme, machin, pas un héros particulier ou voilà, rien de latin, non. Non, non, on a une chair. Et même Dieu permet que cette chair, chez Paul en tout cas, soit en permanence sollicitée pour qu'il compte sur la grâce du Seigneur. Amen. J'ai que plusieurs d'entre vous ont été visités par la grâce dans des circonstances difficiles. Donc vous savez ce que c'est que la grâce. D'être repêché alors que plus rien ne marchait, alors que voilà, le Seigneur fait grâce. Amen. Mais c'est pas une machine à sous, vous voyez. Ceux qui vont à Las Vegas, je crois, ma sœur y était aussi. Hein. La machine à sous, c'est tchou, tchou, tchou. Il faut que ça tombe, il faut que ça descende. Alors on cherche, et ça va pas, on continue, même si on perd de l'argent. Voilà, ça descend toujours, hein, mais on continue à rentrer dedans. Non, le Seigneur n'est pas une machine à sous. Le Seigneur est quelqu'un, une relation qu'on doit aimer, qu'on doit chercher, c'est l'amour. L'amour n'est pas lié à l'argent, n'est pas lié au succès, n'est pas. C'est un style de vie, c'est un mode de fonctionnement de vie qui donne du sens. Machine à sous ne donne pas de sens. Hein. Si vous gagnez des millions, il faudrait les laisser ici-bas. Okay, c'est pas du sens. Le sens, c'est l'amour. L'amour existe dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est là un grand mystère qui n'existe dans aucune religion, à part le christianisme, où Dieu est un et trois en même temps. Ça reste, et ça restera un mystère, mais c'est une réalité. Et c'est la base du christianisme. Ceux qui échappent à cette doctrine, on voit qu'ils partent dans des hérésies. Et pourquoi ? Parce que ça manifeste l'amour. S'ils étaient que deux, il serait fusionnel. Certains pensent que le mariage est fusionnel. Non, le mariage n'est pas fusionnel. Chacun garde son identité, sa personnalité, etc. Il marche avec le Seigneur, il avance, etc. etc. Voilà. Mais il y a l'amour qui se donne et qui se reçoit. Voilà. Mais deux, ce n'est pas suffisant, il faut trois. Parce que le troisième permet de se décentrer des deux pour se tourner vers le troisième et après vous pouvez multiplier la communauté à d'autres. Le véritable amour qui se donne, ça commence à trois. Et c'est pour ça que Dieu est un et trois. Le Seigneur nous donne des modèles. Et si nous suivons ces modèles, nous pouvons atteindre eh bien, la perfection. Parce que nous sommes prévus pour être parfaits. Là aussi, c'est quelque chose que nous aspirons depuis tout petit, être parfait. Alors les hommes essaient de nous montrer, voilà, on va devenir parfait. Aujourd'hui, le transhumanisme alors cherche à nous faire parfait. Alors comment ils vont faire ? Eh bien, ils vont implanter dans votre cerveau un ordinateur qui, lui, soi-disant, ne va pas se tromper. Vous y croyez, vous ? Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez être super. Hommes, etc. Et on n'arrête pas hein, l'homme de rêver à la perfection. Mais la Bible nous dit que nous serons parfaits. Et nous sommes déjà en instance en Jésus-Christ. Et les cinq ministères, qu'ils soient apôtres, prophètes, etc., ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour perfectionner les saints. Au travers de la parole, au travers de l'exhortation. Perfectionner les saints en vue de l'unité de la foi. Pour le perfectionnement qui nous attend en Jésus-Christ. Mais la perfection, nous l'aurons quand notre corps recevra la caractéristique du corps ressuscité de Jésus. Amen. Il y en a qui veulent ce corps-là. Alors, dans ce corps-là, qui est lié à l'âme, hein, puisque l'âme, c'est ce qui fait fonctionner le corps, eh bien, nous serons parfaits comme Jésus le sera. Mais aujourd'hui, nous le sommes par la foi. Demain, nous le serons dans la réalité. C'est quand même extraordinaire, le sens de notre vie. Vous avez envie de ce sens ? Bien, il est à notre disposition. Jésus l'a fait pour chacun de nous. Et Paul se place dans cette perspective et il relativise les petites choses, enfin les petites qui peuvent nous séparer. Le problème des églises, l'église, que Jésus a institué. Ce n'est pas les hommes qui l'ont institué. Jésus, dans les quatre évangiles, On voit que, avant de mourir, il a rassemblé ses disciples sur le mont Hermon, ou en tout cas au pied de l'Hermon, là où est la source du Jourdain. Et là, il a institué l'Église. C'est Jésus qui l'a institué. De la même manière que Dieu a institué le mariage, dans Genèse 2, Jésus a institué l'Église. Donc ce n'est pas une invention des hommes. C'est une réalité que Jésus-Christ a établie avant de quitter la terre. C'est son épouse. C'est le réceptacle de son amour. Exactement comme dans un mariage, l'homme doit être l'initiative du mariage et la femme doit être réponse. Il faut toujours une initiative, une réponse dans l'amour. Allô ? Eh oui. Et aujourd'hui, on ne veut plus respecter l'ordre créationnel. C'est Dieu qui nous a fait, après tout. C'est pas nous qui nous sommes inventés, c'est Dieu qui nous a fait. Et quand on rentre dans l'ordre que Dieu a créé, les choses marchent. Quand on ne le fait pas, ça ne marche pas. Ça marche de travers. Hein. Ça marche sur trois pattes. Le Seigneur Jésus a institué l'Église pour que l'amour puisse se manifester dans cette communauté. Une communauté d'amour. Mais qui est tournée vers Dieu, vers le Seigneur. Pas vers les uns les autres d'abord. C'est la conséquence de l'amour que Jésus nous a donné. Et c'est la corde à trois brins dont on parle souvent dans les mariages. Jésus au centre. Parce que lui est parfait. Parce que lui nous a sauvés et nous donne notre destinée et qui va nous amener vers cette perfection. C'est la question de la liberté. Tout à l'heure, on parlait du français qui veut dire franc, libre. On est supposé être libre. Mais est-ce que nous le sommes véritablement? Non, à cause du péché. Le péché nous rend esclaves. Et le péché a commencé dès la désobéissance dans le jardin d'Éden. Et il continue parce que nous avons ce virus qui nous est transmis par la race humaine, par nos parents. On a ce poison en nous qui s'appelle le péché et qui tord tout, qui tord tout. Et il n'y a que Jésus qui est venu réparer ce problème. Ce problème qui est inhérent à la race humaine et qui est dévoilé par la Bible et qui commence par la Genèse et termine par l'Apocalypse, c'est le plan de rachat, de rédemption de l'humanité. Et si nous comprenons cela, nous rentrons dans le sens de l'histoire. Sinon, nous sommes à côté de l'histoire. Nous sommes dans une histoire illusoire, une histoire mensongère, une histoire qui va nous mener dans le mur. Et l'apôtre Paul montre que les petits bisbilles dans les églises, justement, l'ennemi est là. Parce qu'il y a une autre réalité que la Bible révèle, c'est Satan et les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Alors bien sûr, si on enlève cette réalité, si on la mystifie, si on lui donne une autre chose, on ne peut pas en tenir compte. Vous voyez ? Moi, j'étais ingénieur, enfin, je suis toujours ingénieur, hein, je n'ai pas renoncé à ce que j'ai appris, mais j'ai fait toute ma carrière dans le spatial, dans le transport spatial, les satellites, etc. Et je sais que si on ne tient pas compte de la réalité, ça ne marche pas. Alors, on est tous naïfs. Hein. Enfin, naïf, c'est pas nier. Hein. Moi, le mot naïf, je le prends au sens où je ne sais pas tout. Voyez-vous, je suis naïf. Petit à petit, quand j'apprends, quand j'ai un savoir plus grand, je suis moins naïf. Et puis, on sera toujours naïf par rapport à Dieu, parce qu'on ne saura jamais la connaissance de Dieu et tout ça. Donc, on sera toujours naïf. Donc, naïf, c'est pas du tout péjoratif. C'est simplement, je ne sais pas. Et quand, par exemple, on lançait un satellite qui coûte plusieurs milliards, sans parler du lancement avec Ariane, qui a très bien marché, le centième Ariane qui a marché, une grande fiabilité, eh bien, parfois, la plupart du temps, le satellite s'ouvrait parce qu'il faut qu'il déploie des panneaux solaires, hein, parce que sinon, il n'y a pas de cordon qui monte pour lui apporter l'électricité, donc il faut qu'il les produise lui-même. D'ailleurs, au passage, un panneau du côté du soleil, il est à plus 120 degrés et de l'autre côté à moins 120. Donc vous imaginez 240 degrés d'écart, ça fait des bilames. Hein, ça, si vous faites pas. Donc moi j'étais dans les technologies nouvelles du carbone qui ont pratiquement zéro coefficient de déformation pour que ça marche. Mais parfois il y en a qui s'ouvraient pas des panneaux. Alors les ingénieurs étaient là, ben, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre. Et le client qui disait waouh, c'est quoi ça, des millions qui et puis derrière, vous savez, c'est Bouygues qui l'a fait. Waouh, les clients ils attendent, j'ai déjà vendu les trucs, etc. Donc c'est millions par jour, c'est plusieurs millions par jour qui partent en fumée. Donc vous avez la pression, hein. Vous avez la pression. Et j'étais souvent dans des cas comme ça, on me demandait de venir dans une salle fermée, et puis là, j'avais des ingénieurs aussi de très haut niveau, qui me dépassaient largement, qui faisaient des équations un peu comme s'ils étaient 30 ans en arrière dans l'école, et qui essayaient de comprendre pourquoi ça ne s'ouvrait pas. Parce qu'il y a le froid, et le machin, etc. Et il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution là-haut. Sinon, tout était perdu. Vous voyez le stress. Ben, quand on ne tient pas compte de la réalité, et on était souvent naïfs, petit à petit, on a appris. Quand il y en a un qui ne s'est pas ouvert, on dit pourquoi, on faisait des essais, machin, etc. Pour que le deuxième s'ouvre. Et souvent, on arrivait à l'ouvrir, au moins partiellement, pour qu'il ne soit pas perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le domaine physique, si on ne tient pas compte de la réalité, ça ne marche pas. Or, nous, souvent, on est dans l'illusion. Ah, oh, ça doit marcher. Wishful thinking. Ah, oh, faut que ça marche, faut que ça marche. Mais non. Ou ça marche, ou ça marche pas. Ou c'est vrai par rapport à la réalité, ou c'est pas vrai. Or là, vous avez un livre qui vous dit ce qui est vrai. Et très souvent, on fait autre chose parce que bah, on est plus intelligent. Mais non, pas plus. Mais si, on est plus intelligent que ce que dit la parole. Si on suit la parole, ça marche parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous croyez que Dieu dit la vérité? Ben pourquoi vous ne le faites pas? Vous voyez, c'est le péché encore, c'est l'orgueil. Donc si on suit la réalité, donc plus on cherche la réalité, plus on la trouve parce qu'elle est là. Elle nous a été révélée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit des hommes et des femmes de la parole. Et très souvent aujourd'hui, on ne lit plus la parole. On veut des expériences avec Dieu. On veut expérimenter Dieu. Ben, c'est très bien. Le parti de l'Église évangélique qui veut expérimenter Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut le vérifier avec la parole. Parce que la vérité, c'est quand c'est vrai, mais vous ne le savez pas, a priori, c'est vrai. Donc il faut vérifier si l'expérience que vous faites est vraie ou pas. Donc nous sommes confrontés à cela. Et dans l'Église, souvent, il y a des paradigmes différents, parce que suivant le degré de naïveté que nous avons, moi, il y a 50 ans, j'étais très naïf. Très très naïf sur le combat spirituel, sur la façon dont les choses se passent. Très très naïf. Petit à petit, j'ai appris. Par quoi? Par l'échec. Écoutez, le message de dimanche dernier, il sera édifiant à cet égard. Et plus vous avez un gros échec, plus vous dites waouh, waouh, là, effectivement. Alors, bon, il y en a, je connais des pasteurs qui ne cherchent pas à analyser leur échec. Donc, du coup, ils passent d'échec en échec. Bon. C'est obligé, hein. C'est la même loi produit les mêmes effets. Mais si vous voulez réussir, ben analysez vos échecs. Essayez de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Avec la parole. Et elle vous donnera des clés. Des clés pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et très souvent dans les églises, il y a des préjugés de ce qu'on a appris dans d'autres églises, dans d'autres machins, etc. Maintenant, Internet, vous savez, il apporte tellement de préjugés que c'est à l'infini. Chacun a sa doctrine, chacun a son truc. Puis alors, dans l'église, ça se combat. Ben non, ça je pense pas. Alors quand vous êtes devant un cas que vous devez résoudre, ben, chacun a son idée. Ben, vous arrivez plus à rien résoudre, puisque chacun va avoir raison. Il faut que nous soyons renouvelés dans notre pensée. Romains 12, 1. Renouveler notre pensée. Nous acceptions de déposer nos préjugés, nos paradigmes reçus, avec une nouvelle connaissance de la parole, pour que nous puissions comprendre un peu mieux et dépasser. Pour dépasser nos problèmes. Pourquoi les Israélites ont tourné 40 ans dans le désert? J'espère que vous ne voulez pas tourner 40 ans dans votre désert. Mais parce qu'ils n'ont pas accepté que ceux qui avaient la foi et qui ont dit non, c'est des géants, oui, mais Dieu est plus grand que les géants et on va réussir. Eh bien, ils n'ont pas pu rentrer dans la réalité de la promesse. Et nous aussi, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre si facilement pour devenir libres. Libre, ça veut dire être le moins naïf possible, puisqu'on ne sera jamais dans la connaissance parfaite de ce que Dieu a fait, mais le moins naïf possible. Et surtout, être enseignable. Alors, la semaine dernière, Philippe a dit qu'il faut utiliser le mot « docile », parce que ça vient de « docere » du latin. Alors, moi, je n'ai jamais fait de latin. Mais qu'est-ce que tu comprends de docile quand je dis ça, malléable? C'est pas ça qu'on veut dire. Vous ne devez pas être malléable, mais effectivement, docile renvoie à malléable. Donc moi, je n'utilise pas le mot docile, même si c'est étymologiquement, c'est dans la grammaire, c'est juste. Mais ce que j'utilise, c'est ce que vous arrivez à comprendre quand je dis un mot. Ben, j'essaye, en tout cas, Michel m'aide à le faire parce que... C'est elle qui est spécialiste dans la traduction, ce qu'on appelle dynamique. Vous avez des livres en traduction dynamique, des Bibles, qui essayent justement de donner le mot « aujourd'hui ». Et enseignable, vous comprenez, enseigner, voilà. De recevoir un enseignement, d'être capable d'être enseigné. Mais pour être enseigné, il faut être humble. Il faut dire, ah, peut-être que ce que je savais, c'est peut-être pas tout à fait ça, je mets quelque chose de plus, ce qui est vrai, je le garde, mais je mets quelque chose de plus. Et c'est ce que je souhaite à chacun, parce que l'enseignabilité... D'ailleurs, chez les Juifs, c'était clair. Chez les Juifs, vous savez, les Juifs ont été enseignés... Alors, bien sûr, il est pharisien, mais il faut aussi voir les vrais Juifs, qui étaient bien. Il y en a eu beaucoup, dont d'ailleurs celui qui a présenté Jésus. Siméon, il disait que un enfant intelligent, c'est un enfant qui pose des questions, qui écoute. C'est pas un enfant qui sait tout. Non, pas du tout. Pour eux, pour les Juifs, ils ont compris ces principes. Et quelqu'un qui était un enfant qui était instruit, qui savait tout, machin, qui répétait, etc. Pour eux, c'était pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est celui qui pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il veut aller plus loin. Parce qu'il ne se contente pas de ce qu'il sait, il veut encore en savoir plus. Voilà. Et donc, c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous, d'être dans l'humilité de dire « je ne sais pas, je veux plus ». Et ce que je sais, je le mets en pratique pour que ça puisse marcher. Alors, c'est le cas des chapitres 9 et 10 des Corinthiens. Et j'aimerais que dans les groupes de maison, vous preniez ces deux chapitres. Vous voyez, là, mon heure est terminée, donc il faut que j'arrête. Mais il y a tous ces deux chapitres que je ne peux même pas lire, mais que j'aimerais que vous fassiez dans les prochains groupes de maison, parce qu'ils vous donneront des clés pratiques, des clés concrètes sur ce qu'il faut renoncer à faire pour être libre. Vous voyez, par exemple, je prends juste un exemple pour vous titiller un petit peu dans les groupes de maison. 1 Corinthiens 9, verset 19, je lis, l'apôtre dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » La liberté, selon la Bible, c'est non pas d'être libre comme les gens aujourd'hui le pensent, pouvoir faire n'importe quoi pour atteindre le bonheur. La libre, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est considéré comme une qualité, une vertu, selon l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 5. Il le cite dans les vertus de la foi, la maîtrise de soi. Alors, c'est pas la maîtrise de « waouh, je suis maître de mes émotions, je suis maître ». Non, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Comme l'apôtre Paul, vous voyez, la maîtrise de soi, c'est de dire « je suis libre à l'égard de tous ». D'ailleurs, je peux prendre l'autre verset, mais il y en a tout plein de versets, je vous laisse chercher. Mais il y en a un autre qui est fantastique, hein, qui dit, j'espère que je vais le trouver, il est caché là, verset 23 dans le chapitre 10, il dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Voyez-vous, ça c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quand vous avez le sens de votre vie, le sens de votre destinée, le sens que la Bible donne sur vous, eh bien, vous utilisez votre raisonnement, hein, parce que vous en avez un, et vous le mettez au profit de la maîtrise de soi qui vous aide à servir. Jésus, qui était le Fils de Dieu, il a décidé d'abandonner toutes ses capacités divines. Il est resté Dieu, mais il a décidé pour servir. Et quant à la fin, le sommet de l'amour, du service, il a lavé les pieds. Pierre a dit « Non, Seigneur, non, tu ne peux pas faire ça. » Pourquoi ? Parce que c'était le plus vil des travaux qui était réservé des esclaves, de laver les pieds de ceux qui entraient. Il y avait toujours un esclave qui lavait les pieds, parce qu'à l'époque, on marchait en sandales, et c'était le plus vil du travail qui était donné. Et Pierre ne pouvait pas supporter que Jésus fasse ça pour lui. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, Pierre, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas être dans le royaume. Voyez-vous, Jésus s'est abaissé. Il a pris la décision. Le Père ne l'a pas abaissé. Les hommes n'ont pas abaissé. C'est lui qui a décidé de s'abaisser. Amen. Voilà le modèle. Voilà ce que nous devons imiter. Et Paul a compris ces principes. Il les a fait. C'est pour ça qu'il a dit, imitez-moi. Au moins dans ce que j'ai réussi à faire, imitez-moi. Parce que bon, c'est peut-être plus proche que Jésus, parce qu'il est mort il y a quelques années, mais moi, vous voyez, ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement un modèle. Soyez des modèles pour votre génération. Modelez la vie chrétienne. Et peut-être moins d'en parler. Et les gens vous diront, pourquoi tu réagis comme ça? Je sais que Olivier est arrivé au boulot. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Lui, il fait de l'évangélisation par le mutisme. Mais il parle après. C'est vrai. Qu'est-ce que dit la Bible pour les femmes dont les maris sont inconvertis? Allô? Pardon? J'entends pas. Son attitude. Voyez-vous, c'est pas par les paroles. La Bible dit. Alors là, vous êtes sûr de gagner, de vous le mettre à dos. Il s'en va. On a de l'expérience là. Non. Gagnez-le par votre conduite, par votre attitude, par votre modèle. Amen. Vous avez la capacité parce que Jésus vous la donne, parce que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Et c'est ça qui va changer les choses au plus près et au plus loin. Et ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Si nous sommes des modèles, nous n'avons pas à nous occuper des conséquences croissantes de l'Église, machin, tout ça. C'est du bidon. Ok ? C'est les méthodes humaines qui sont rentrées dans l'Église. Non. Nous devons être des modèles de Jésus. Et faire comme Jésus a fait. Et comme Paul a fait. Comme Pierre a fait. Alors ? Et si nous sommes ces modèles, eh bien le résultat va suivre. Mais il va suivre quoi ? Parce que si vous témoignez à quelqu'un, est-ce que vous savez, vous, son cœur ? Vous êtes prétentieux si vous êtes son cœur, non ? C'est peut-être un cœur de pierre qui, au soleil, l'argile, il durcit comme Pharaon. Mais ça peut être aussi du beurre qui fond au soleil. Vous ne le savez pas. Donc faites confiance à Dieu. Dans votre évangélisation. Faites confiance à Dieu, c'est lui qui agira. Amen. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions être des imitateurs de Christ, mais aussi être des modèles pour que d'autres puissent nous imiter et que nous puissions transmettre la foi, non pas par l'intelligence, mais que nous puissions la transmettre par le vécu. Dans la relation que nous avons avec toi, nous serons inspirés par l'Esprit pour mettre les choses en pratique. Et ainsi glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons que l'Église soit glorieuse, non pas parce qu'elle parle de gloire, mais parce qu'elle sera glorieuse à cause de son témoignage, à cause de ce qu'elle est et de ce que nous sommes en tant que communauté, parce que nous aimerons les uns les autres, nous n'allons pas nous attraper pour des choses secondaires, comme on le voit dans les deux chapitres de Corinthiens et ailleurs, mais que nous allons tous ensemble être humbles les uns vis-à-vis des autres de toi, pour être un témoignage à ta gloire. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.